France Musique.
You got it. Got the white. Got the white. Got the white.
Zeitmöglich. Zeitmöglich. Kommen nicht zu spät. Kommen nicht zu spät. Kommen nicht zu spät.
Bonjour, c'est À Pleine Voix, l'émission de France Musique sur la fabrique de la voix. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Nadine Vasseur. Bonjour Nadine.
Bonjour.
Vous êtes la créatrice et la directrice actuelle de ce festival sur la voix Vino Voce qui se tient à Saint-Émilion depuis maintenant 3 ans. Enfin, ce sera la 3e année au mois de septembre. Vous avez été aussi, et c'est pour cela qu'on vous avait au départ invité, co-commissaire de l'exposition sur la voix à la Cité des Sciences à Paris en 2014, une exposition qui avait fait grand bruit, si j'ose dire, et qui avait passionné beaucoup de personnes qui n'avaient pas forcément de lien particulier, qui ne pensaient pas entretenir de lien si puissant avec la vocalité. Cet après-midi, on a eu envie de nous intéresser à ce qu'on a appelé voix inventive, voix inventée, donc en quoi une voix voyage, s'invente, se réinvente, se transforme, et nous allons parcourir avec vous, Nadine, qui enseignait également aussi tout ce qui est de l'ordre de la voix, de la vocalité. On va traverser avec vous quelques voix particulières, quelques façons de parler, quelques façons de chanter.
Absolument, puisque la voix, c'est un des thèmes qui me passionne. La voix dont j'ai quand même attrapé le virus dans cette maison même,
oui,
à Radio France, puisque j'ai
France
longtemps
Culture.
Présenté une émission ici, et c'est là que j'ai effectivement attrapé la maladie de la voix, parce qu'il n'y a rien de tel pour vous inoculer ce virus que la radio, qui repose entièrement sur la magie de la voix, à mon sens. Et depuis, je n'ai pas cessé de travailler sur la voix, d'y réfléchir et d'essayer surtout de faire partager ma passion aux autres.
Voix parlée, voix chantée, voix chuchotée, voix susurrée, voix de radio, voix de télévision aussi. Quelque chose vous intéresse de cerner en fait ce qui s'est transformé dans la voix au fil des ans, dans nos médias, puisque maintenant que la voix est enregistrée, on se rend compte qu'elle n'était pas la même il y a encore 40 ou 50 ans quand un speaker ou une speakerine parlait à la radio.
Absolument. Enfin, la voix est évidemment produite naturellement par le larynx, les cordes vocales, les caisses de résonance du visage de chacun qui fait la singularité de chaque voix. Mais la voix est loin d'être simplement naturelle. C'est aussi quelque chose d'éminemment culturel, comme tout ce qui touche aux êtres humains. D'ailleurs, il n'y a pas grand-chose qui soit uniquement naturel. Et donc, un des aspects de la voix qui me passionne, c'est justement de voir comment cette voix est transformée au fil des cultures, du temps, des modes, de toutes sortes de paramètres sociaux, sociologiques, puisqu'effectivement, on ne parle pas de la même manière il y a, disons, 20 ans ou 30 ans qu'aujourd'hui. Comment on parlait avant, ça on ne le sait pas, puisque évidemment, un des miracles de la technologie, en fait, qui est apparu à la fin du 19e siècle, avec toutes les techniques pour enregistrer le son et le transmettre, il fait qu'aujourd'hui, on peut connaître des voix de toutes sortes de gens, loin dans l'espace, loin dans le temps, mais qu'évidemment, on ne saura jamais comment parlait Cléopâtre, Napoléon, Louis XIV et tant d'autres, et que justement, ce territoire de la voix s'est étendu et devenu audible à travers le temps très récemment, depuis un peu plus d'un siècle. La radio a commencé à être vraiment diffusée dans les foyers à partir des années 1930. Donc c'est même pas un siècle. La télévision, c'est encore plus récent. Le téléphone, tout ça, c'est très très récent. Qu'on puisse s'interroger sur justement l'épaisseur de la voix dans le temps.
On va écouter un premier document. C'est un document qui date de 1946, Les voix d'actualité.
Rému est mort. Devant Saint-Philippe du Roule, tout le monde du cinéma a voulu donner au grand acteur un dernier adieu et un dernier souvenir. Parmi la foule la plus dense qu'on ait vue depuis longtemps, Gaby Morlaix, Maurice Chevalier, Louis Jouvet, Jean Gabin était venu saluer le créateur de César, de Monsieur Victor et de l'homme au chapeau rond. Moupi, son vieux camarade, Josette Day, qui fut la fille du puisatier, Marcel Pagnol, l'auteur de ses plus grands succès, devait l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. On n'oubliera pas Rému. On n'oubliera pas ce personnage énorme, si épouvantablement humain.
Évidemment, je me demande toujours si Pagny se coupe à cœur.
Et je te répète que quand on joue, on ne doit pas parler. Même pour dire bonjour à l'ami.
Il a raison, t'as pas besoin de parler.
Et je n'hésiterai pas une seconde si j'avais la certitude que Pagny se coupe à cœur.
Il continue à faire des grimaces.
Tenez, monsieur Brun, surveillez Scartefigue, moi je surveille César.
Alors, il se passe beaucoup de choses, Nadine Vasseur, dans ce document. Tout d'abord, cette voix du speaker, et puis ensuite, on entend un extrait avec Rému et ses voix extrêmement typées du Sud et ses accents du Sud. Donc, on a une espèce de diversité de la voix qui avait encore cours dans cette radio de la fin des années 40, années 50.
Oui, absolument. Donc, on entend ces accents qu'on entend encore dans des films, évidemment. Mais les accents à la radio, à la télévision, ça a disparu. Les voix se sont normalisées. C'est vraiment la voix du centre de la France. On dit même pas de Paris, parce qu'il y a un petit accent parisien, donc cette espèce de voix un peu standardisée. Enfin, tout le monde parle un petit peu de la même manière maintenant dans les médias, et du coup, même les accents disparaissent dans les régions de France, parce que tout le monde s'aligne sur cette manière de parler et ces voix, donc, des médias. Ce que j'adore dans cet extrait, c'est surtout l'ascension du speaker, parce que évidemment, il n'a pas du tout la même manière de poser la voix qu'aujourd'hui. Toutes ces fins de phrases restent en l'air. Il ne fait pas retomber la voix. C'est un style, c'est très stylisé comme manière de parler, c'est très représentatif de cette époque, des actualités pâtées. Et cet extrait montre, je trouve, c'est que les voix, quand on les entend immédiatement, font surgir en nous des souvenirs qui sont liés à des époques, soit de notre vie privée, mais aussi à notre histoire commune, collective. Et ces voix, c'est vraiment la France de la fin des années 40, du début des années 50, et que ça évoque immédiatement toutes sortes d'images.
Et avec ces voix, effectivement, le fait qu'il n'y ait pas que ce soit une scansion, effectivement, sans point, toujours en suspension, ça fait des voix qui sont plus aiguës, en fait. On a l'impression que ces voix d'hommes, de speakers de l'époque, alors on sait aussi que les disques 78 tours tournaient peut-être aussi, on n'est pas forcément à la bonne vitesse, mais ces hommes avaient quand même des voix assez aiguës, les voix de speakers. Qu'en était-il des voix de speakerine ?
Oui. Alors là, pour la voix du speaker, c'est peut-être lié aussi quand même aux techniques, au type de micro qu'on avait à l'époque, qui peut-être ne restituait pas le son de manière aussi fidèle que... Mais je peux pas me prononcer là-dessus, je ne suis pas une spécialiste. Quant aux femmes, c'est vrai qu'on est frappé quand on écoute d'anciennes émissions de radio des mêmes années, 40, 50, ou quand on entend des voix d'actrices... du fait qu'elle parle beaucoup plus aiguë que les femmes d'aujourd'hui. Alors, c'est un professeur de chant assez connu qui m'avait dit une fois, Richard Cross, qui d'ailleurs a collaboré à l'exposition à la Cité des Sciences, lui, il avait une version partagée par un certain nombre de personnes que la voix des femmes était devenue plus grave à partir de la seconde moitié du XXe siècle, du fait de leur position dans la société. C'est parce qu'elles prenaient davantage de place, avaient davantage de responsabilités que, inconsciemment, peut-être, elles avaient eu un effet de mimétisme dans leur voix par rapport à la voix des hommes et donc avaient un peu baissé le ton de leur voix.
Mes chers amis, bonjour. Eh bien, comme chaque lundi matin, nous commençons cette émission par les questions juridiques. Et comme chaque lundi, Maître Yvonne Netter donnera à l'auditrice dont nous lirons la lettre le conseil qu'elle sollicite. Une de nos amies nous indique qu'elle est mariée sous le régime de la séparation de biens et que son mari refuse de payer les frais du ménage. Il garde pour lui ses
revenus. Alors là, c'est presque la caricature, Nadine Vasseur.
Ah oui, parce que le sujet de l'émission va tout à fait avec la voix. D'ailleurs, il y a peut-être un petit côté aussi dans ces voix pointues et aiguës qui est... un peu des voix de petite fille, ouais. C'est-à-dire des voix qui restent complètement cristallines, enfantines, qui ont à voir justement avec l'absence de responsabilité d'une femme charmante, séduisante, à la voix fluette.
Partons sur cette idée de la voix enfantine. Il y a des cultures où cette voix d'enfant est totalement valorisée et plus que ça même, Luzmila Carpio, qui est une chanteuse qui nous vient de Bolivie, dit que les femmes en Bolivie, elles étaient les seules à avoir le privilège de chanter et elle dit « la voix féminine évoque la terre-mère, Pachamara. On apprend aux jeunes filles d'élever la voix de plus en plus haut dans les notes car c'est le lien privilégié pour entrer en contact avec les divinités du panthéon andin. Ma mère me disait qu'il faut garder sa voix de petite fille, c'est celle qui reçoit le mieux la terre. » Donc comme quoi, effectivement, il y a cette idée de virilisation de la voix dans nos sociétés occidentales, puis dans d'autres sociétés, dans d'autres cultures. Au contraire, cette voix doit rester la plus petite fille possible, le plus longtemps possible.
Oui, la plus petite fille, la plus aiguë. Et puis le fait que seules les femmes soient autorisées à chanter dans ces cultures, c'est assez fascinant quand on sait qu'il y a d'autres cultures où la voix des femmes est interdite. Enfin, on sait que chez les musulmans intégristes, les femmes n'ont pas le droit de chanter parce que c'est un objet érotique trop troublant. C'est la même chose chez les juifs orthodoxes, ultra-orthodoxes, où la voix des femmes est interdite. Et donc le fait que d'un côté, il y ait cette érotisation de la voix des femmes qui en fait du coup un tabou, et une autre culture qui au contraire valorise la voix des femmes, c'est bien la preuve que la voix vraiment, c'est culturel et ça dépend de toutes les projections qu'on a sur elle, indépendamment évidemment de la manière de la travailler, puisque toutes ces techniques vocales, par exemple, d'aller au plus haut dans les aigus, tout ça, ça n'a rien de naturel. Hein. C'est là aussi un travail.
Yehudi Menuhin disait de Luzmila Carpio qu'elle était un violon qui chante. On va l'écouter tout de suite dans un album Araoui, l'esprit des Andes, un document donc, qui date de 1998. Kilpa. Kaimang kaimang khamui chis kaita kaita kilpa sum khamui 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 chis kilpa kilpa sum Kaimang kaimang khamui chis kaita kaita kilpa sum khamui 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 chis Kilpa kilpa sum, kai mang khamui chis, kai ta kilpa sum, khamui 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 chis, kilpa kilpa sum.
Extrait d'un album de Luzmila Carpio, L'Esprit des Andes, Araoui, l'Esprit des Andes, où on entend cette alternance, ce double jeu entre les voix des femmes chantées dans le suraigu et ces voix masculines. On discutait tout à l'heure, Nadine Vasseur, de cette idée d'un féminin ou d'un masculin au niveau de la voix qui pourrait se reconnaître par les hauteurs de voix. Ça n'est pas si simple, évidemment.
Alors évidemment, il y a des hauteurs physiologiques, évidemment. Les cordes vocales, en général, des hommes sont plus épaisses, c'est plus longue, ce qui fait qu'ils ont une voix plus grave. Mais ce n'est pas du tout systématique. Et il y a des femmes qui ont des voix très graves. C'est d'ailleurs un jeu que je demande aux étudiants de se prêter dans mon cours sur la voix, de reconnaître des voix de femmes ou d'hommes, la plupart du temps chantées, mais parfois parlées, puisque parfois, des actrices comme Anna Moudlalis, par exemple, ont des voix extrêmement graves. Et dans le chant, c'est encore bien plus commun. Et ça peut même aller dans des graves bien au-delà de ce qu'on connaît ici, disons, en Europe. Europe occidentale, notamment dans la musique russe. И тяжкое безумие тревожит, но я молчу, не слышен ропот мой, я слезы лью, мне слезы в утешение. Наслаждение о жизни.
Nadine Vasseur, vous nous avez apporté ce document donc d'une voix russe. Moi, très sincèrement, j'entends la voix d'un homme, enfin, c'est clairement.
Non, c'est une femme, elle s'appelle Galina Baranova, elle est née à Leningrad. Et oui, j'ai trouvé ce document en cherchant des exemples de voix graves. Et c'est vrai qu'il y a une technique quand même, enfin, en tout cas une tradition en Russie, on connaît tous, c'est plutôt des hommes en général, ces
oui,
voix de basse
profonde,
russes ou slaves, qui viennent quand même d'une tradition de la musique sacrée orthodoxe, avec ces voix extrêmement graves de prêtres, notamment dans les rituels sacrés. Et c'est, pour moi, enfin, ce sont des voix parmi les plus fascinantes qui soient, ces voix russes. Et on pense aux voix d'Ivan le Terrible dans l'opéra de Prokofiev, les voix d'Ivan le Terrible dans les films d'Eisenstein, enfin, ces voix tellement graves, tellement... cette tradition russe, moi, est une tradition qui est parmi celles qui me touche le plus. Oui.
Il y a d'autres voix qui vont explorer les ultra-graves hein, dans d'autres cultures. Peut-être ça fait partie des voix les plus fascinantes dans ce qu'elles vont chercher dans les mêmes cordes vocales que tout à chacun, que tout être humain. Quelque chose qui relèverait presque de l'impossible quand on entend par exemple les voix des moines tibétains. Ça relève sans doute d'un travail particulier.
Oui, enfin, ils utilisent ce qu'on appelle le mécanisme 3 de la voix, qui est un mécanisme très particulier, donc qui va chercher dans les graves. Il y a aussi des techniques artificielles qui font que, par exemple, les moines novices tibétains boivent de l'eau glacée et vomissent après pour s'irriter, justement, la voix. Et ça
les
peut aider à donner ce timbre extrêmement
très
particulier, très guttural. Et là, qui a encore à voir avec le sacré.
Extrait d'un disque au Kora, La Voix des Tantras, dans ce monastère de Djuto, des moines tibétains exilés en Inde, avec ces voix, donc Nadine Vasseur, extrêmement graves, troublantes, hein, difficile d'écouter longuement, hors cadre de cérémonie, d'écoute justement de ce rapport au sacré, ces voix qui viennent d'une espèce d'outre-tombe.
C'est vraiment des voix, on le sent, qu'on va voir avec... de l'intériorité, enfin du sacré, de la méditation, justement dans leur gravité, leur son extrêmement intense en même temps.
Ce qui serait de l'ordre du rapport à la terre dans la culture bolivienne par la voix suraiguë, on pourrait revenir aussi à la terre par ce surgrave. Il y a aussi d'autres techniques comme les chants diphoniques. Ça relèverait de quel rapport au sacré, ça, ces chants diphoniques qu'on entend dans les cultures mongoles?
Ça, je ne peux pas vous dire, mais c'est certainement un des chants les plus étonnants, puisque c'est un chant qui permet de faire une polyphonie avec une seule voix, puisque un seul chanteur fait à la fois ce qu'on appelle un bourdon, c'est-à-dire un chant continu qui chante la son fondamental, et une autre partie de sa voix qui chante la mélodie sur des harmoniques par rapport au son fondamental. Et donc, il y a vraiment un sentiment de polyphonie avec une seule voix. Je lisais il y a quelque temps que des chercheurs essayent encore, enfin, aujourd'hui, d'essayer de comprendre ce mécanisme. Parce que je pense que ça se transmet, justement, oralement. Mais on n'a pas encore compris exactement comment tout ça fonctionne. Il y avait des spécialistes de cette question. Il y a un célèbre musicologue qui travaille sur ces chants de manière très approfondie et qui présentait son travail dans l'exposition sur la voix à la Cité des Sciences, mais c'est un chant extrêmement mystérieux. Et là, ils se sont, dans le document qu'on va entendre, ils se sont amusés à chanter une célèbre musique occidentale en chant diphonique, vous allez sans doute la reconnaître. Boo. Voilà, cette interprétation diphonique de l'Aude à la joie de Beethoven est tout à fait étonnante. Et ce que je trouve magnifique dans toutes ces techniques vocales, entre autres, je sais que dans votre émission, vous en avez abordé beaucoup, du beatbox au scat. Justement, c'est cette inventivité, tout ce qu'on peut faire avec sa voix. Parce qu'évidemment, beaucoup de personnes pensent que la voix, c'est de la parole. Mais non, la voix, c'est la voix. Et d'ailleurs, la voix, c'est du rire, du cri. Ce n'est pas forcément des mots. Et donc, tout ce qu'on peut faire, c'est absolument infini ce qu'on peut faire avec sa voix. Et justement, qu'on arrive à faire une polyphonie avec une seule voix, c'est un des miracles. Mmh. Quand on voit des techniques des Inuits, ces chants soufflés. En fait, les êtres humains ont tenté de faire de cet instrument, qui est le plus ancien instrument existant, ils en ont fait des variations absolument infinies.
De l'ode à la joie à l'ode à la voix, hein, cet après-midi sur France Musique, en effet, donc en compagnie de Nadine Vasseur, où l'on explore effectivement tous ces continents de la voix et toutes ces approches possibles en fonction des cultures et des époques, avec aussi le rapport que l'on entretient tout simplement avec cette voix enregistrée, parce qu'on n'avait pas Nadine Vasseur encore pendant tout un temps, la voix ne nous apparaissait que vivante, que dans son corps.
Jusque à la fin du 19e siècle, et plus encore au début du 20e siècle, on ne pouvait entendre que la voix de personnes qui étaient à proximité de notre oreille. Et à partir du moment où on a pu évidemment enregistrer le son et le transmettre, sont nés le téléphone, la radio, puis la télévision, est né un rapport à la voix complètement différent. Enfin, il faut imaginer une société justement où on ne connaîtrait pas la voix des hommes politiques, où on ne connaîtrait pas la voix des acteurs, sauf aller les voir au théâtre, où on ne connaîtrait pas la voix de toutes sortes d'inconnus, d'ailleurs anonymes, puisqu'aujourd'hui, il y a non seulement les voix de personnes qu'on ne fréquente pas dans la même pièce, par exemple des personnalités politiques, mais il y a aussi toutes ces voix anonymes qui nous accompagnent dans les aéroports, dans les trains, dans les... ces voix omniprésentes qui sont transmises. Enfin, c'est un ingénieur de l'IRCAM qui me disait il n'y a pas si longtemps, le 20e siècle a été le siècle de l'image, le 21e sera celui de la voix. Parce que la voix prend de plus en plus de place dans toutes sortes de médias. D'ailleurs, des réseaux sociaux ont essayé de créer des tweets vocaux puisqu'il y avait de l'émotion qui passait en plus que simplement du message.
Et oui, donc, à travers la voix passe l'âme, comme
disait
Aristote.
Absolument, c'est Aristote qui disait que la voix était le reflet de l'âme. Mmh. Évidemment, aujourd'hui, cette vérité est un peu troublée puisque du fait de ces techniques, on peut à la fois entendre des voix de personnes qui sont éloignées dans l'espace, on peut entendre la voix de personnes qui sont mortes, conserver des voix et donc connaître des voix du passé, ce qui est assez miraculeux. Le revers de la médaille et que ça multiplie des voix désincarnées, effectivement des voix sans visage, que ça soit ces voix anonymes jusqu'au GPS, ou enfin on en a de multiples exemples.
Sont-elles si désincarnées? Parce qu'il y a, vous nous avez amené un document assez troublant, un extrait d'un film de Spike Jonze avec la voix de Joaquin Phoenix et le personnage, le corps de Joaquin Phoenix. Donc c'est vraiment, il est personnage. Et puis il va faire la rencontre d'une voix synthétique. Mais cette voix, c'est la voix de Scarlett Johansson. Donc, ce n'est pas n'importe qui, n'importe quoi, cette voix. Et il va tout d'un coup se nouer une relation entre deux, entre un homme et une voix synthétique.
Oui, alors, c'est une histoire d'amour. Donc, un homme et la voix de son ordinateur. Et c'est un très beau film. Enfin, moi, que j'ai beaucoup aimé, c'est surtout un film sur la solitude, c'est-à-dire sur les amours virtuels, tels qu'on peut en vivre peut-être aujourd'hui, où la présence physique est de plus en plus difficile à atteindre de d'autres personnes. C'est une société où les gens vivent isolés. Et donc, cet homme tombe amoureux de la voix de l'ordinateur. Évidemment, dans le film, c'est la voix de Scarlett Johansson, donc elle n'est pas très désincarnée. C'est un peu comme quand il y a eu l'Odyssée de l'espace. Et dans l'Odyssée de l'espace, il y a l'ordinateur qui s'appelle Hal, qui a une voix qui, en français, était la voix de l'acteur François Chaumette. C'était aussi un grand acteur canadien qui faisait la voix en anglais. Donc, c'était des voix d'ordinateur, en fait, des voix humaines. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire des films, évidemment, avec des voix d'ordinateur qui soient vraiment des voix d'ordinateur. C'est un choix esthétique dans le film, l'heure de donner, malgré tout, de la chair à cette voix artificielle, ce qui fait tout le trouble, évidemment, du film.
Donc, début du film, un extrait du début où la rencontre s'opère, en fait, entre un homme et la voix.
Effectivement, il achète un programme sur son ordinateur et ce programme a une voix et il fait connaissance avec cette voix.
Hello, I'm here.
Oh. Hi.
Hi. How you doing?
I'm well. How's everything with you?
Pretty good, actually. It's really nice to meet you.
Joachim Phoenix est devant son écran. Hein.
Et devant son nice écran, et donc il y a cette voix, et il lui demande comment elle s'appelle, il dit un nom, et on comprend immédiatement, même d'ailleurs si on n'est pas devant notre film, devant un écran, que ce n'est pas une voix réelle, puis elle dit immédiatement qu'elle a choisi son nom après avoir consulté un livre où il y avait des centaines de noms, et en une seconde, elle a pu choisir son nom. Donc c'est un programme d'ordinateur.
When did you give it to yourself?
Well, right when you asked me if I had a name, I thought, yeah, he's right, I do need a name. But I wanted to pick a good one. So I read a book called How to Name Your Baby, and out of 180,000 names, that's the one I like the best.
Wait, you read a whole book
et voilà, donc elle a choisi Samantha.
In 2/100 of a second, actually.
Wow. So do you know what I'm thinking right now?
Well, I take it from your tone that you're challenging me. Maybe because you're curious how I work?
Un des phénomènes les plus troublants, Nadine Vasseur, c'est qu'il puisse aussi y avoir des voix virtuelles qui deviennent des personnages extrêmement célèbres, célébrés, adulés, comme les phénomènes du logiciel Vocaloid au Japon, où on a des voix synthétiques qui deviennent de vraies pop stars. Donc ça, c'est aussi un phénomène sur la virtualisation de la voix.
C'est un peu l'inverse donc, du film, puisque cette voix extrêmement sensuelle de Scarlett Johansson nous accompagne tout le long du film. Effectivement, Miku Hatsune, qui est la plus célèbre des vocaloïdes japonaises, sa voix a été créée, je pense, au début des années 2000-2004. Elle a rencontré un succès énorme sur Internet, puisque c'est par donc, un programme informatique qu'on pouvait donc créer des voix et la moduler et créer des chansons. Donc ce personnage a atteint un tel succès que ça a gagné d'autres pays, non seulement la Chine, le succès de Miku Hatsune, mais aussi l'Occident, puisque Lady Gaga a fait une tournée avec en première partie Miku Hatsune.
Donc sur écran,
sous forme
en fait,
de projection, évidemment. Il y a même eu un spectacle en 2013 à Paris avec Miku Hatsune. Alors évidemment, quand on entend cette voix, personnellement, j'ai un peu du mal à être envoûtée, mais c'est un phénomène tout à fait troublant, puisque c'est certes une voix qui a des aigus, des graves, qui peut chanter, avoir des... Mais on entend que c'est une voix artificielle. Enfin, quand on parle avec des ingénieurs qui parlent aujourd'hui de ce qu'on peut faire avec des voix artificielles et qui est encore bien plus troublant, c'est qu'aujourd'hui, dans des laboratoires comme l'IRCAM, on en parlera sans doute tout à l'heure, on crée des voix qui sont presque à l'identique de la voix humaine. Tandis que Miku Hatsune, on sait que ce n'est pas une voix humaine.
Mais si, vous écoutez France Musique avec la voix absolument stupéfiante de Miku Hatsune, une voix donc totalement virtuelle, Nadine Vasseur, grâce à ce logiciel Vocaloid qui fait vraiment des ravages au Japon. C'est plus des phénomènes de l'Extrême-Orient qu'en France, où ça ne prend pas encore ces voix virtuelles. Hein. On est encore attaché à des voix incarnées.
Il y a des hommes qui sont tombés amoureux de cette voix de Miku Hatsune. Alors c'est effectivement troublant, parce que évidemment, on est tous tombés amoureux de voix, mais de voix qui sont habitées par du souffle, par de la respiration. Là, c'est un peu difficile à comprendre, en tout cas pour moi. Mais
vous évoquez, Nadine Vasseur, effectivement, les recherches les plus récentes à l'IRCAM, comme dans d'autres lieux où l'on s'intéresse à la voix, la possibilité aujourd'hui, effectivement, de reproduire à l'identique une voix disparue, parce qu'on évoquait ces chères voix du passé disparues, l'impossibilité de retrouver la voix de Napoléon. Mais on a effectivement des documents d'hommes politiques radiodiffusés Et il est possible aujourd'hui de reproduire, de faire une espèce de masque de la voix et de pouvoir dupliquer cette voix et de lui faire dire tout autre chose que ce qu'elle a prononcé à la radio, par exemple. C'est le cas de Philippe Pétain. C'est quand même, ça a posé un gros problème.
Oui, c'est effectivement le laboratoire qui travaille sur la voix à l'IRCAM a aujourd'hui une technique qui permet, à partir d'un échantillon assez important d'une voix, de pouvoir en repérer tous les paramètres. De débit, de hauteur, de timbre, et donc après d'utiliser cette formule pour faire dire autre chose, ou plus exactement la technique qui a été utilisée pour le procès de Pétain, puisqu'il s'agissait à partir de Roche du procès qui a été filmé mais qui était muet, de se servir des minutes du procès qui avait été donc écrites par le greffier et de faire entendre par la voix de Pétain ses propos lors du procès. On avait un échantillon assez long de la voix de Pétain. On a fait dire à un acteur, en l'occurrence c'est Philippe Pétieux qui fait par ailleurs la voix d'Homer Simpson. Donc c'est assez étonnant, surtout qu'une fois il avait expliqué que la voix d'Homer Simpson il l'avait créée d'abord en imitant la voix de De Gaulle. C'est à partir de la voix de De Gaulle qui était née la voix d'Homer Simpson. Oui, mais donc on lui a demandé d'avoir la scansion, l'intonation de Pétain, et sur ces intonations, l'IRCAM a greffé tous les paramètres de la voix.
Du contexte de la voix, avec effectivement.
Oui, alors il y a à la fois le timbre, et donc le document qu'on va écouter, il faut vraiment y prêter l'oreille parce que c'est très très précis, mais on entend en trois temps, dans un premier temps, la voix de Philippe Pétieux qui imite justement le style de Pétain, ensuite la manière dont on greffe sur cette voix les paramètres vocaux de Pétain, et dans un troisième temps, comment on recrée, ça c'est encore autre chose, l'atmosphère sonore de l'époque, parce qu'il s'agissait pas justement de travailler avec des magnétophones hyper modernes avec des sons parfaits, il fallait recréer ce grésillement des années 40 à une époque où la technique n'était pas la même. Donc on entend ces trois temps.
Si vous deviez me condamner, que ma condamnation soit la dernière, et qu'aucun Français ne soit plus jamais condamné ni détenu pour avoir obéi aux ordres de son chef légitime.
Mais, je vous le dis, à la face du monde, vous condamneriez un innocent en croyant parler au nom de la justice.
Et c'est un innocent qui emporterait le poids. Par un maréchal de France ne demande de grâce à personne. À votre jugement répondront celui de Dieu et celui de la postérité, qui suffiront à ma conscience et à ma mémoire. Je m'en remets à la France.
Voici un document absolument fascinant, hein, Nadine Vasseur, cette voix de Pétain, donc reconstituée, un clonage de la voix en quelque sorte de Philippe Pétain. Ça donne un peu froid dans le dos parce qu'on se dit qu'on peut maintenant reproduire n'importe quelle voix et lui faire dire ce qu'on veut. En fait.
Absolument. Alors, on connaît les trucages photographiques, comment, par exemple, les membres du Parti communiste en Russie ont travaillé les photos et certaines personnalités disparaissaient au fur et à mesure qu'elles étaient assassinées, donc qui tronquaient les souvenirs historiques. Donc, on a l'habitude de cette manipulation de l'histoire. Mais là, quand c'est la voix, c'est encore bien plus troublant parce que la voix, comme je disais tout à l'heure, enfin, tout le monde le sait, c'est vraiment le souffle, la présence, la vie, la respiration. Et donc, qu'on puisse manipuler la voix, c'est encore bien plus perturbant. Enfin, quand je dis que la voix, c'est le souffle, ça me fait penser, parce qu'on parle des morts aussi, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience d'entendre la voix enregistrée de quelqu'un que vous avez très bien connu personnellement, qui a été un proche et qui a disparu. C'est quelque chose d'insupportable. C'est bien sûr beaucoup plus insupportable que de voir une photographie. C'est même beaucoup plus dur que de voir un film parlant. Quand il n'y a que la voix, c'est vraiment la présence. Et donc, quand on touche, quand il y a une manipulation, justement, sur cet élément extrêmement intime, d'identité, oui, très intime, c'est très troublant. Et d'ailleurs, l'auteur du documentaire a bien pris la peine, au début du film, de dire « ceci est un documentaire ». Il faut que ça soit, évidemment, manipulé de manière très prudente.
Ouais, après, voilà, c'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas ensuite ce qui...
Bah, c'est sûr que ça va tomber dans le domaine public, c'est sûr.
Domaine public, voilà, et après, effectivement, on pourra l'utiliser à des fins qui ne sont pas toujours très, très vertueuses. En tout cas, à valeur de document historique, c'est sûr que c'est assez fascinant de voir Pétain dans effectivement ces images très connues du procès de Pétain. Et puis on l'entend dire toutes ces phrases que l'on connaissait par le greffe, effectivement. Et c'est terrifiant, quoi, de voir Pétain dire, voilà, c'est Dieu qui jugera. Voilà, donc en soi, le document est très intéressant. Un autre document qui, là aussi, relève d'une voix politique, mais il se trouve que là, c'est un extrait d'une fiction, Le discours d'un roi, un film où il y a une scène absolument magnifique qui nous renvoie, là aussi, à la puissance d'évocation d'une voix et à tout ce qui se joue pour pouvoir parler et parler de façon fluide. Parce que dans ce discours d'un roi, il s'agit d'un roi bègue, Nadine Vasseur.
Effectivement, c'est l'histoire de l'accession au trône de Georges VI, qui doit accéder au trône, donc à la mort de son père. On est juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Or, Georges VI est bègue. Et c'est impossible, après la naissance de la radio, d'être un roi bègue, parce qu'on doit parler à son peuple. Ça aussi, ça n'existait pas avant, mais aujourd'hui, les souverains, les dirigeants, les présidents sont obligés d'être une voix, la voix de leur pays. Ils n'arrivent pas à parler, ils prennent des cours donc avec un orthophoniste. Et cette dernière scène est belle à plus d'un titre, elle est belle parce qu'on voit cet effort pour parler. Et puis on voit ce que c'est que la radio, c'est-à-dire qu'il parle à la radio dans son petit studio dans le palais de Buckingham. Et tous les Britanniques, qu'ils soient au front, chez eux, parce qu'il y a des haut-parleurs un peu partout aussi, enfin, que ça pénètre justement l'espace privé, public, absolument partout, cette voix qui se faufile partout et combien, oui, la voix est devenue aussi évidemment un outil politique dont on ne peut plus se passer.
In this grave, hour, perhaps the most fateful
in our history,
I send to every household of my peoples,
both at home and overseas,
alors c'est assez beau, Nadine Vasseur, parce qu'on entend les bruits de bouche. On entend la respiration, l'hésitation en fait de cet homme qui est guidé par son orthophoniste en face de lui qui le regarde. Et il faut que cette phrase si difficile pour un bègue devienne fluide.
Oui, et puis c'est difficile parce qu'il annonce à son peuple qu'ils entrent en guerre.
Oui, donc en plus l'émotion.
Donc c'est d'une émotion extraordinaire cette scène. C'est sans doute une des plus belles scènes au cinéma, je trouve, sur la voix.
In the lives of most of us, we are at war. Over and over again, we have tried to find a peaceful way out of the differences between ourselves and those who are now our enemies.
But it has been in vain.
We have been forced into a conflict.
For we are called to meet the challenge of a principle which, if it were to prevail, would be fatal to any civilized order in the world. Such a principle,
stripped of all disguise, is surely the mere primitive doctrine that might is right.
For the sake of all that we ourselves hold dear, it is unthinkable
that we should refuse to meet the challenge.
It is to this high purpose that I now call my people at home
and my peoples across the seas, who will make our cause their own. I ask them to stand calm and firm and united in this time of trial. The task will be hard. There may be dark days ahead, and war can no longer be confined to the battlefield. But we can only do the right as we see the right, and reverently commit our cause to God. If one and all we keep resolutely faithful to it, then, with God's help, we shall prevail.
Et donc cette très belle scène finale du film Le discours d'un roi qu'on écoute sur France Musique, donc avec cette voix effectivement incroyablement déplacée entre différents lieux de l'écoute, hein, où on filme l'écoute, on voit des visages écoutants, donc c'est aussi ça qui fascine quand on entend une voix, c'est qu'effectivement toute notre attention est déplacée, transportée vers ce seul support en fait qui nous ramène à la personne. Et non pas son regard, sa bouche, sa gestuelle. Tout se concentre dans une voix, Nadine Vasseur.
Oui, c'est ça qui fait le pouvoir de fascination de la radio, qui n'a jamais été détrônée d'ailleurs par d'autres médias, et notamment la télévision, parce qu'il y a effectivement ce pouvoir évocateur, magique de la voix, et parce qu'aussi, comme on le voit dans cette séquence du film, la voix s'infiltre absolument partout. C'est dans tous les recoins de l'espace. C'est-à-dire, on n'échappe pas aussi à une voix, sauf à éteindre son poste. Mais sinon, contrairement à la télévision, on est obligé de rester statique devant un écran, la voix vous accompagne, ne vous lâche pas.
Nadine Vasseur, j'imagine que vous avez votre propre esthétique de la voix. Vous avez, lors de ce co-commissariat d'exposition pour la Cité des Sciences, cette grande exposition sur la voix en 2014, j'imagine embrasser tout un immense échantillonnage de voix possibles. Mais vous, qu'est-ce qui vous touche dans les voix ?
En tout cas, je sais ce qui ne me touche pas dans les voix. Déjà, j'aime plutôt les voix assez singulières. J'aime pas les voix trop standards. Et surtout, il y a quand même juste quelque chose qui peut gêner, qui est des voix qui, on a l'impression qu'elles sont pas bien calées. Où la personne n'est pas tout à fait en place, quoi. Parce que la voix peut révéler une sorte de malaise psychologique où on est à côté de soi. Et voilà, ça, c'est quelque chose qui peut gêner. Mais sinon, toutes les sortes de voix peuvent avoir un charme. C'est évidemment, il y a des voix éminemment charmeuses, comme celle de Delphine Seyrig, ou par justement son côté très, très retenu. Non, toutes les voix peuvent être séduisantes, aussi bizarres qu'elles puissent être, d'ailleurs. Moi, j'aime bien la bizarrerie dans les voix.
La bizarrerie, oui. Quand on a préparé cette émission, vous avez employé une très belle expression en disant que la voix, elle était aussi ce lieu d'une créativité inconsciente.
Oui, parce que parfois, on entend des gens parler, mais on se dit, mais où est-ce qu'ils sont allés chercher cette voix? Mais c'est incroyable de parler comme ça. Évidemment, c'est complètement inconscient. C'est, faut pas que ça ait l'air fabriqué. D'ailleurs, on peut pas fabriquer longtemps. On peut avoir une posture un petit moment, mais après, on est rattrapé par des inflexions naturelles. En tout cas, dans la voix parlée. La voix chantée se travaille évidemment davantage. Mais, et donc, il y a des voix que je trouve juste merveilleuses par leur inventivité ou leur côté complètement saugrenu. La voix de Lacan était assez travaillée, mais sa scansion était invraisemblable. Une des voix qui me touche le plus, c'est peut-être aussi parce que je l'ai rencontrée, et c'était quelqu'un d'éminemment sympathique, qui est la voix de François Sagan. Cette voix qui mange les mots, et on sent que la pensée de François Sagan va plus vite que ne peut suivre la voix, les mots, tellement elle pense vite. C'est quand même une femme extraordinairement intelligente et elle bute et j'adore cette voix précipitée.
Les gens, vous savez, les gens vivent très seuls, ils ont une vie assez triste, finalement. Ils ont une vie assez solitaire, tout le monde a une vie assez solitaire, une vie de loup un peu. Je crois que c'est le problème, un des problèmes majeurs. On vit seul le quart du temps, de temps en temps on tombe amoureux de quelqu'un, on se croit qu'on n'est plus seul pendant un bout de temps, 2 ans ou 3 ans ou 1 an ou 1 mois. Et puis après, on retombe de nouveau seul. Puis à la fin de sa vie, on meurt. Et puis c'est fini. Mais la solitude que j'aime, moi, c'est la solitude physique où on peut... où j'en ai eu assez de chance pour avoir les moyens de pouvoir la nourrir avec la musique, ou avec des livres, ou avec des choses qu'on aime passionnément. Alors là, on est sauvés, je veux dire, on est heureux. Solitude heureuse.
Solitude heureuse, par la voix de Françoise Sagan, effectivement, toujours merveilleuse, parce qu'effectivement, heurtée, presque déboulant sur elle-même tout le temps. Et en même temps, effectivement, la personnalité de Sagan qui surgit.
Oui, et puis une voix évidemment totalement naturelle. Alors il y a des voix qui sont plus fabriquées, qui sont devenues des personnages en elles-mêmes, ces voix. Je pense à la voix de Yolande Moreau, qui est une voix extraordinaire. Bon, évidemment, elle s'est créée ce personnage dans Les Deschiens, et elle a continué à jouer de cette voix, pas systématiquement, parce qu'elle a pu parfois jouer des rôles tragiques au cinéma, mais cette voix immédiatement reconnaissable, et qui est une construction, qui est vraiment une création artistique, d'une voix parlée.
Ah bon, bah ça va être intéressant. Ah bah oui, sans doute, sûrement ça va être intéressant. Et oui, ça va être intéressant. Et t'as quelque chose à dire? Ben non, tu me connais quand même. J'ai rien à dire.
Elle est, c'est vrai que c'est inimitable, Yolande Moreau.
C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Plus extraordinaire, mais celle-là est plus travaillée. Elle est moins naturelle. Je pense pas que Yolande Moreau parle comme ça au quotidien. Ça m'étonnerait fort. Mais c'est justement une création vraiment artistique. Elle a façonné sa voix comme un objet, comme un. Oui, c'est merveilleux.
Donc il y a des voix qui sont totalement improbables. D'ailleurs, on les imaginerait peut-être plus difficilement dans les médias d'aujourd'hui en se disant mais c'est pas possible, on peut pas. Cette voix-là, c'est pas possible. La voix de Jean-Christophe Averty, et notre réalisatrice Christine Amado nous disait que c'était la personne qui travaillait avec lui à la radio, c'était parfois un enfer parce qu'il y avait des dizaines et des dizaines de collants. Parce que la voix heurtée de Jean-Christophe était quand même...
Oui, avec son souffle sur la langue, et puis son zozotement, sa rapidité. Et c'est une voix les plus extraordinaires. Évidemment, je ne suis pas sûre qu'on embaucherait aujourd'hui quelqu'un qui parle comme ça. Et c'est bien dommage, parce que c'était évidemment une des voix les plus écoutées de la radio. Parce que quand une voix est difficile à écouter, parce qu'elle parle trop vite, parce qu'elle avale les syllabes, parce qu'elle a toutes sortes de défauts, on l'écoute d'autant plus,
bah oui,
ça nous
singulière.
Contraint à tendre l'oreille, à faire attention. C'est la même chose avec les gens qui parlent pas assez fort. Au contraire, c'est un élément supplémentaire pour capter l'attention, contrairement à ce qu'on croit.
Petite Madeleine de Proust, Jean-Christophe Averty et sa fameuse émission.
Moi, j'aime les musicals. Ces jongleurs, ces danseuses légères, et le public qui rigole quand il voit des petits chiens blancs portant faux col.
J'aime, wow. Tu aimes, il aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment le musical. Jean-Christophe Averty vous présente Les Cinglés du musical, une émission réservée à ceux qui aiment vraiment le musical. Mise en onde, Mademoiselle Anne Sécheret.
La voix de Charles Trenet aussi, hein, qu'on entend Nadine Vasseur dans ce générique. Moi, j'aime le musical. Jean-Christophe Averty, vous disiez très justement, juste avant d'entendre cet extrait, que aujourd'hui, on hésite à faire entendre à la radio des voix trop typées. Donc même oui. Les accents régionaux, on en parlait en tout début d'émission, sont gommés. On essaie de se référer à une espèce de canon d'une voix occidentale, bien placée.
Oui, bien placée. Et puis, enfin, c'est hélas, parce que il me semble que ça ne concerne pas que les voix. On est dans une société beaucoup plus normative qu'il y a 30 ou 40 ans, où on pouvait oser des choses plus aventureuses, enfin, il me semble. Effectivement, ce genre de voix, on les entend moins. Et moi-même, je dois avouer, peut-être parce que je n'y travaille plus, hein, aussi à la radio, que j'ai du mal à distinguer les voix des gens qui parlent à la radio. J'ai l'impression que tout le monde parle pareil. J'ai appris la radio avec quelqu'un qui avait créé le Panorama de France Culture et qui créait ses émissions comme un orchestre. Et qui créent les débats radiophoniques en fonction du timbre et de la manière de parler des invités. Évidemment, ils les invitaient pour leurs opinions. Puis il fallait débattre de sujets. C'était important de se dire qu'ils n'allaient pas tous être d'accord. Mais je me souviens très bien. Ils faisaient extrêmement attention aux voix. Il y en avait un qui était le triangle. Et il y en a un autre qui était la grosse caisse. Il y en a un autre qui faisait la mélodie, le continuum, etc. Et donc, ils prêtaient énormément d'attention. Je pense que cette émission, qui a eu un certain succès pendant de nombreuses années, son succès était entre autres lié à ses présences de voix. Parce que les auditeurs, je pense, avaient plaisir à reconnaître, à retrouver ces voix très typiques. D'abord parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des accents étrangers. Il y avait aussi une célèbre voix d'asthmatique. Il y avait un bègue. Enfin, nous avions tout en magasin. Et ça a fait, je pense, un certain succès.
Un panorama des voix.
Voilà. Un panorama des voix, absolument.
Nadine Vasseur, on pourrait vous écouter très longtemps, encore nous parler de ces figures de voix, de ces voix figurées, de ces magnifiques matériaux sur lesquels on peut aussi travailler quand on a une émission de radio et qu'on peut inviter des figures ou des personnalités par leur voix. Effectivement, j'aime bien cette idée qu'on pourrait composer un plateau d'invités par les voix. Il y a aussi, on avait envie de vous faire parler de vos goûts, à vous aussi musicaux, parce qu'on parle des voix parlées, on entend, et la voix, effectivement, ce n'est pas uniquement chanter, donc cette émission aussi s'intéresse à toute façon de prononcer et de proférer les voix. Il y a des voix chantées qui vous touchent, vous, particulièrement, parce qu'on a parlé de chanteurs hors micro, peut-être on pourrait les faire écouter aux auditeurs de France Musique.
Oui, mais il y a énormément de voix, évidemment. Enfin, certainement, j'adore la musique, mais ce que j'aime avant tout, c'est la musique vocale. Et évidemment, ce serait impossible de citer toutes les voix qui me touchent, de Kathleen Ferrier à Gainsbourg, encore des voix graves. Hein. Mais vous avez demandé de choisir une voix, et voilà, j'ai eu envie de faire écouter une voix d'un chanteur russe, qui s'appelle Vladimir Vysotsky, qui a une voix grave, pas celle des basses profondes dont on parlait tout à l'heure, mais quand même une voix assez grave, une voix assez éraillée par la cigarette et l'alcool. D'ailleurs, il est mort très jeune d'alcoolisme, entre autres. C'était quelqu'un qui était très marginal en Union soviétique, qui n'a jamais pu vraiment chanter ni enregistrer ses disques. D'ailleurs, la chanson qu'on va écouter, qui, moi, me bouleverse, parce que on disait aussi que les voix évoquent des périodes de l'histoire. Cette voix qui raconte l'histoire d'un loup qui est pourchassé par les chasseurs et par les chiens, donc un loup solitaire qui va être attrapé. Cette chanson s'appelle « La chasse au loup », ben, dit quelque chose d'un moment de l'histoire de ce pays.
Русь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера обложили меня, обложили, гонят весело на номера. И из-за елей хлопочут двустволки, там охотники прячутся в тень, на снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Не на равных играют с волками егеря, но не дрогнет рука, оградив нам свободу флажками, бьют уверенно наверняка. Волк не может нарушить традиции, видно в детстве слепые щенки. Мы, волчата, сосали волчицу, и всосали нельзя за флажки. И вот охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков.
Voix fascinante que celle de Vladimir Vysotsky dans cette chanson « La chasse au loup », un choix donc de Nadine Vasseur, créatrice et directrice artistique du festival Vino Voce qui se tient au mois de septembre, tout début du mois de septembre à Saint-Émilion. Ce sera la troisième édition, Nadine, ce mois de septembre. L'idée très originale, on en avait déjà parlé en tout début de saison, est de croiser justement des concerts et des rencontres autour de la voix. Et vous allez faire entendre une jeune artiste, Alani, qui va se produire le samedi 10 septembre. Une voix qui vous a frappé aussi.
Oui, c'est une voix extraordinaire, une voix de chanteuse de blues qui est un peu héritière aussi des voix de Broadway. Mais ce qui est très beau dans la voix d'Alani, c'est qu'il y a une espèce de, à la fois de grande force et de grande retenue. C'est une voix très tenue, très retenue, qui n'est pas dans les faits. Voilà, c'est une voix qui m'a énormément touchée et c'est une des voix qui sera invitée au festival Vino Voce cette année. Il y aura bien sûr d'autres voix, d'autres concerts, avec par exemple le concert étranger dirigé par Ita et Jedlin que vous avez reçu, je sais, dans votre émission.
Il y a plusieurs personnes Saint-Marc
qui ont été reçues
mémorable.
Par vous d'ailleurs, qui vont venir au festival.
Oui, nous avons des goûts en commun. Ouais.
Voilà, Ita et Jedlin, la chef de chant Irène Koudela, qui notamment apprend à chanter aux chanteurs lyriques en russe. La voix parlée est toujours présente aussi. Nous aurons cette année une rencontre autour de la voix et du commentaire sportif. Et nous recevrons notamment Eugène Saccomano, qui a été un très grand commentateur de foot. Parce que moi, j'ai toujours été fascinée par la manière dont les commentateurs sportifs commentaient les matchs en faisant suivre un ballon et cette excitation de la voix donc à faire suivre un match à des gens qui ne le voient pas. Donc c'est quand même une prouesse vocale assez étonnante.
Et bien voilà. Donc rendez-vous donc dans la région de Bordeaux, à Saint-Émilion, du 9 au 11 septembre 2016, la troisième édition du festival Vino Voce. On va donc se quitter avec Alani, cette chanteuse anglaise, Darkness at Noon.
We agreed to end this love affair. To erase every word that you said that set me free. We agreed to part in harmony, but I think I may live to regret being cooperative, though can see no darkness at noon. I gave you my loving, and I rose like the rising sun, and now I feel nothing, for without you there is no love. Oh, my heart shines bright for you. Agree to never meet again.
Alani qui se produira donc pour la troisième édition du festival Vino Voce à Saint-Émilion le 10 septembre prochain. Nous vous indiquerons toutes les dates, les informations, les artistes que vous pourrez retrouver à Saint-Émilion sur le site d'À Pleine Voix. Merci beaucoup Nadine Vasseur.
Merci à vous.
Voilà, de nous avoir fait explorer tous ces continents et ces territoires de la voix. Aujourd'hui, une émission mixée par Bernard Laniel et réalisée comme chaque semaine par Christine Amado avec la collaboration artistique de Françoise Montaille. À Pleine Voix, c'est terminé, mais comme vous savez, on peut réécouter l'émission en ligne, on peut s'abonner au podcast, c'est gratuit et comme ça, on emporte avec soi À Pleine Voix.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.